Au nom du Père, et du Fils, et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. Mes bien chers frères, nous arrivons à la lettre que notre Seigneur dicta à Saint Jean pour l'église de Sardes, en Asie mineure. Voici ce que dit celui qui a les sept esprits de Dieu. Le Verbe fait chair, évidemment, a les sept esprits de Dieu. Je connais tes œuvres. Je sais que tu as un nom, c'est-à-dire une réputation, comme si tu vivais, mais tu es mort. Deviens vigilant, ranime toutes les autres œuvres qui étaient sur le point de mourir, car je ne trouve point d'œuvre à toi pleine devant mon Dieu. Remets-toi donc en mémoire, voici maintenant les remèdes, remets-toi donc en mémoire ce que tu as reçu, ce que tu as entendu, observe-le, fais pénitence. Si tu ne veilles point, je viendrai à toi comme un voleur, et tu ne sauras pas à quelle heure je viendrai à toi. Et après cette algarade sévère, voici une lueur d'espoir, de consolation même, d'encouragement. Mais tu as un petit nombre de noms dans Sardes qui n'ont point souillé leurs vêtements et qui marcheront avec moi en blanc parce qu'ils en sont dignes. Celui qui a triomphé ainsi sera revêtu d'habit blanc et je n'effacerai point son nom du livre de la vie et je confesserai son nom devant mon Père et devant ses anges. Que celui qui a une oreille entende ce que l'Esprit dit aux églises. Cette annonce est terrible. Je parle de la première à l'évêque de Sardes. Il a des bonnes œuvres extérieures, mais son cœur est loin de Dieu, car il recherche sa gloire, sa propre gloire, et non celle de Dieu. Il a beau faire de grandes choses, apparemment pour la gloire de Dieu, puisqu'il a une bonne réputation, et qu'on dit de lui qu'il est vivant. Nous ne savons pas ce qu'il fait, parce que Jésus-Christ ne nous le dit pas, mais il doit construire des églises, prêcher, s'occuper des œuvres d'action catholique, etc. Cependant, il est mort, et cela ne vaut rien, c'est même moins que rien, puisque cela le rend digne de l'enfer. Première partie de ce sermon, les œuvres valent ce que vaut la charité, et n'ont pas de valeur uniquement par l'extérieur. L'extérieur est très accessoire, nous verrons cela. Il faut que j'insiste là-dessus parce que c'est très méconnu. On se dit, oui, bien sûr, si quelqu'un n'a pas la charité, il ne peut pas être sauvé. Cependant, ses œuvres bonnes restent bonnes, elles portent du fruit, elles font avancer le royaume de Dieu malgré tout. Et puis, puisque ses œuvres sont bonnes, puisque mes œuvres sont bonnes, le bon Dieu devra bien en tenir compte, et il ne pourra pas dire que je sois totalement sans charité, soit je me sauverai quand même, quitte à passer par le purgatoire, soit le bon Dieu sera obligé, d'une certaine manière, à me donner la charité avant que je meure, en considération de tout le bien que j'ai fait. Ce n'est pas du tout ce que dit notre Seigneur. Il dit « Je viendrai comme un voleur, tu ne t'en apercevras pas. C'est maintenant qu'il faut faire pénitence, pas après. » Dieu veut le cœur d'abord. Le livre des Proverbes « Mon fils, donne-moi ton cœur et que tes yeux se plaisent dans mes voies. » Et puis vous avez surtout la première épître aux Corinthiens, chapitre 13. Quand je parlerai les langues des hommes et des anges, si je n'ai pas la charité, je suis comme un bronze sonore ou une cymbale qui retentit. Et quand j'aurai le don de prophétie, la science de tous les mystères, et toute la connaissance, quand j'aurai même toute la foi jusqu'à transporter les montagnes, si je n'ai pas la charité, je ne suis rien. Et quand je distribuerai tous mes biens pour la nourriture des pauvres, quand je livrerai même mon corps pour être brûlé, si je n'ai pas la charité, cela ne me sert de rien. Alors il faut bien comprendre, mes bien chers frères, cela ne sert de rien pour celui qui fait de telles œuvres, aussi magnifiques soient-elles, et de plus, cela ne sert pas à grand-chose pour les bénéficiaires des œuvres. Je vais vous l'expliquer. C'est l'amour de Dieu qui donne la vie aux vertus. Sans la charité, elles sont mortes, même si elles ont encore une apparence de vie. Cela est évident pour ceux qui aiment Dieu, il n'y a pas besoin de le démontrer. Et si cela nous étonne, c'est très inquiétant pour nous et prouve que l'amour de Dieu n'est pas en nous. Le raisonnement que je viens de vous faire, le faux raisonnement, oui, je n'aime pas Dieu, mais comme il faut, mais comme je travaille pour lui, il sera bien obligé, ça c'est un raisonnement d'aveugle. Et ce vice est difficile à débusquer parce qu'il n'apparaît pas, c'est pourquoi Jésus-Christ commence en proclamant qu'il possède les sept esprits. Il faut en effet les sept dons du Saint-Esprit pour se rendre compte d'un tel manquement. Alors peut-être un petit mot d'explication, pour que vous compreniez bien que sans la charité, les œuvres les plus grandes n'ont pas de valeur. La raison profonde, c'est que Dieu n'a pas besoin de nos œuvres, mais il veut notre charité pour pouvoir nous aimer. Il nous aime, lui le premier. Grâce à cet amour, nous pouvons l'aimer et nous devons l'aimer. Et grâce à cet amour que nous avons en retour pour lui, il nous accueille dans son paradis. Et toutes les œuvres extérieures doivent normalement être un rayonnement de l'amour. Rappelez-vous le sermon d'il y a 15 jours. Et les œuvres extérieures sont l'accessoire, sont les conditions de notre vie. Dieu pourrait très bien se passer de nos œuvres extérieures, et il est très fréquent que pour des apôtres pleins d'amour de Dieu, Dieu se passe de leurs œuvres extérieures et les réalise lui-même à leur place, ce sont les miracles. Et les œuvres ne profitent guère non plus à ceux en direction desquels elles sont faites, qui devraient en profiter. Pourquoi ? Ben imaginez un jardinier qui, au lieu d'avoir branché le tuyau d'arrosage sur la réserve d'eau, l'aurait branché sur la pompe à purin. Ces fleurs vont mourir très rapidement, parce que le purin, ça peut être un bon engrais en petite quantité, mais si vous arrosez au purin, vous faites tout mourir. Celui qui fait des grandes œuvres et qui n'a pas en soi la charité ne peut pas transmettre la charité. Il transmet des œuvres qui sont des coquilles de charité, et il arrive que les bénéficiaires, à partir de la forme de la coquille, redécouvrent ce qu'est la charité, mais ça n'est pas grâce à celui qui a fait les œuvres, c'est malgré lui. Et la plupart du temps, quand on trouve une coquille vide, au lieu de chercher quelle est la noix qui aurait dû la remplir, on se décourage en disant « cet homme est un charlatan, il ne me donne que des coquilles vides ». On le voit très nettement dans les œuvres de jeunesse. Les œuvres de jeunesse qui ne sont pas pleines de charité, les jeunes disent « tu es bien gentil, mais pour ce que tu réalises, j'ai aussi bien dehors sans toi ». Deuxième partie du sermon, les catholiques libéraux, le libéralisme. Le libéralisme a beaucoup de sens, c'est un terme qui nous a été volé par la Révolution, que nous avons essayé de récupérer, et du coup, il faut bien dire de quoi on parle. Donc je parle des catholiques libéraux. C'est eux, aujourd'hui, qui incarnent le mieux, et surtout le plus souvent, ce que notre Seigneur dénonce de l'Église de Sardes. Et vous allez voir que ces catholiques libéraux sont nombreux, nous entourent et ont de l'influence. Dans un premier temps, ces catholiques servent Dieu. Et comme ils ont de grandes qualités, ils sont loués pour les résultats qu'ils obtiennent. Et on leur donne les places en vue. Ils ont de l'influence. Ils ont un nom parce qu'ils vivent. Et non pas un nom comme s'ils vivaient. Ils sont encore vivants. Dans un deuxième temps, les ennemis de la foi, oui, les ennemis de la foi, voyant leurs œuvres, commencent à les combattre. C'est logique. Et troisième temps, ils doivent alors choisir un camp ou l'autre. Mais les catholiques libéraux, par amour de la vaine gloire, essayent de sauver leur place, leur réputation, de conserver les louanges, sans pour autant perdre la foi, ni même, croient-ils, la charité. Si on arrivait à s'entendre avec les ennemis de Dieu, on se persuade qu'on leur ferait du bien. Je vais afficher la Déclaration des droits de l'homme dans toutes les classes de mon école, comme ça la République me laissera garder cette école ouverte, et je ferai du bien. Que va-t-on former dans une école pareille ? On va former des hypocrites et des catholiques libéraux, sans conviction, qui ouvertement s'affichent avec le monde et avec les ennemis de Dieu, parce que le monde est ennemi de Dieu, toujours, c'est dans l'Évangile, et qui, devant les catholiques, s'affichent comme catholiques et comme amis de Jésus. On fait de grandes œuvres extérieures en faveur de l'Église, cela plaît aux catholiques, qui donnent des louanges. Heureusement, monsieur l'abbé, que vous êtes là pour avoir ouvert une école pour nos enfants. Et si cette école pénétrait de l'esprit du catholicisme libéral, c'est ce que je viens de vous dire, ça sera les droits de l'homme. Mais en même temps, ces catholiques libéraux qui font de grandes œuvres extérieures en faveur de l'Église font tout pour ne pas déplaire aux ennemis de Dieu. Et les ennemis de Dieu apprécient beaucoup une telle attitude, parce qu'il est beaucoup plus facile de vider un coquillage aux yeux du monde que de l'écraser. Si vous écrasez une huître ou n'importe aux yeux du monde, on va vous accuser d'avoir détruit une bonne nourriture. Si vous empoisonnez l'huître, les gens ne s'apercevront de cela que plus tard et ne vous diront rien. Et vous aurez détruit un parc à huîtres sans problème, le temps de disparaître. Notre Seigneur reproche aux catholiques d'avoir moins de lumière, de prudence que les hommes du siècle. C'est exactement cela. Les ennemis de Dieu sont intelligents, disons plus éclairés dans le mal que beaucoup de catholiques ne le sont pour le bien. Ils savent que les œuvres des catholiques libéraux sont mortes, qu'elles ne produiront pas de fruits. Ils savent même qu'elles vont contaminer petit à petit les catholiques et par conséquent ils les favorisent. Ils lui mettent tout juste 2-3 bâtons dans les roues pour faire croire aux catholiques que ces œuvres sont sans problème, que ce sont des œuvres authentiquement catholiques, puisque les adversaires sont apparemment opposés. En réalité, c'est des petits bâtons de rien du tout, et ils laissent ces œuvres prospérer extérieurement, bien sûr, extérieurement, parce qu'ils savent qu'elles font beaucoup mieux le travail des ennemis de la foi que ne le ferait une persécution ouverte. Pourquoi croyez-vous que Bergoglio a donné à la Fraternité Saint-Pilice le pouvoir de confesser? C'est parce qu'il sait que les confessions des prêtres de la Fraternité Saint-Pilice, d'une façon générale, sont moins dangereuses pour lui que celles qui continuent à être bonnes et sont dangereuses. Mais il sait peser dans la balance. Pour une confession contre-révolutionnaire, je veux dire une confession qui va vraiment former des apôtres de la foi, il y en a combien qui vont faire des libéraux? Alors Bergoglio favorise. Puis deuxième étape, oh, vous avez reçu la juridiction pour les confessions, vous m'avez remercié. Eh bien, je vais vous la donner également pour les mariages, parce que ça vous tracasse, je le sais. Mais à condition que vous les fassiez sous l'autorité de l'évêque du lieu. Et là, le catholique libéral est pris au piège et il ne s'en aperçoit même pas. Combien de ces prêtres dits traditionnels qui trouvent normal de se soumettre à l'évêque du lieu pour régler le mariage, et pas seulement la cérémonie, mais également toute la suite, parce que du moment qu'on marie sous l'autorité de l'évêque du lieu, ça veut dire que le mariage va continuer à être soumis à l'autorité de l'évêque du lieu, c'est logique. Une petite remarque, comme seule la charité donne la joie et la paix parfaite, les catholiques libéraux sont toujours inquiets. Ils sont toujours à pleurer, toujours à se plaindre. Il leur manque toujours un sou pour faire un franc. Ils ont toujours peur de perdre le peu qu'ils ont, qu'on leur ferme leur école libérale. Et ils communiquent cette inquiétude. En plus de communiquer une vie pauvre en charité, voire privée de charité, ils communiquent l'inquiétude. Petit à petit, tout le peuple fidèle devient, à son tour, catholique libéral, en attendant d'être libéral non catholique. Eh bien, chers frères, faisons un examen de conscience sérieux pour voir si nous ne serions pas dans le cas de l'évêque de Sardes. Et si vous n'arrivez pas à voir, suppliez la très sainte Vierge de vous donner les sept esprits pour voir clair dans vos œuvres. Les exemples concrets de catholicisme libéral, je vous en ai déjà donné plusieurs. Paul VI, son discours de conclusion du Concile Vatican II. Désormais, il n'y aura plus de guerre entre le monde et l'Église. Qui a changé, le monde ou l'Église? Le monde n'a pas changé, donc c'est l'Église. À la suite de Paul VI, vous avez tous ceux qui ont préféré suivre l'Église officielle, comme ils disent. Qu'est-ce que cela veut dire, l'Église officielle? Celui qui a le titre ou celui qui tient l'office, c'est-à-dire le devoir, qui accomplit la mission, voyez? Office, une mission. L'office du facteur, c'est de distribuer les lettres. L'office du médecin, c'est de soigner. Alors qu'est-ce qui compte? Ceux qui ont le titre ou ceux qui distribuent les lettres? Les lettres du Saint-Esprit, bien sûr. Ou ceux qui soignent vraiment? Jusqu'aux derniers en date. Le décès du pauvre Monseigneur Titien de Malray, qui fut beaucoup plus un faible qu'un catholique et libéral, mais souvent ça se rejoint. Disons que le faible est très facilement la proie d'un catholique libéral, c'est ce qui s'est passé. Eh bien, le décès de Mgr Titien de Malray fait que certains fidèles se posent la question en disant « Mais oui, effectivement, ai-je eu raison de lui faire confiance ?» Malheureusement, pour un qui se pose la question, il y en a 10 qui continuent à faire confiance, maintenant, après Mgr Titien de Malray, Mgr Felet, Mgr de Galarita, etc. Dans les temps favorables, la réalisation de grandes œuvres peut aller avec un grand amour de Dieu et un véritable combat contre le monde. Par exemple, les missions. Les missions en Afrique, notamment, ont été absolument merveilleuses. La construction des cathédrales. Cette union entre grandes œuvres et charité se voit à ce que, dans ce cas, les pauvres sont tenus en estime, Saint Louis donnant à manger à un pestiféré à l'abbaye de Royaumont, un lépreux. Cette union entre les grandes œuvres et la charité se voit à ce que l'on cultive l'humilité, Saint Vincent de Paul, qu'on cultive la vie monastique, des grands de ce monde entrant dans la vie religieuse et la vie monastique, cachée. À l'inverse, dans les temps de persécution, toutes les grandes œuvres, m'as-tu vu, dénote la recherche de l'amour du monde. Dans les temps de persécution, l'ennemi ne laisse pas faire des grandes œuvres. Ils ne veulent pas d'œuvres qui se voient. Et donc toutes les grandes œuvres permises par l'ennemi, ordinairement, en temps de persécution, sont des œuvres qui méritent ce que notre Seigneur a dit à l'évêque de Sardes. Dans les temps de persécution, les vraies œuvres de charité vont au secours de la foi, de ceux qui sont en danger, de ceux qui cherchent. Comme en temps d'épidémie, les vrais chrétiens sont ceux qui, négligeant le soin de leur santé, vont à la recherche des malades, des victimes de l'épidémie, pour les soigner, quitte à y laisser eux-mêmes leur vie. Que faire pour retrouver et augmenter la charité? C'est la dernière partie du serment. Saint Thomas d'Aquin nous dit « La charité est un don de Dieu seul ». Donc il faut la demander. Il dit il faut écouter attentivement la parole de Dieu, donc lire notamment des vies de saints, l'évangile et des vies de saints. Entretenir en nous sans cesse de bonnes pensées, mais il faut faire attention, parce que même là, les bonnes pensées, les bons désirs peuvent être sous apparence de bien, et au bout d'un certain temps, nous dit saint Ignace, repris en main par le démon, il faut détacher son cœur des choses terrestres, ça c'est très important. La patience inaltérable dans les adversités. Et les conseils donnés par Jésus à l'évêque de Sardes, remets-toi donc en mémoire ce que tu as reçu et ce que tu as entendu, c'est-à-dire revenir, parce que les catholiques libéraux sont devenus libéraux, mais à l'origine ils étaient des catholiques catholiques. Si Mgr Titienne Malleret avait réécouté les sermons de Mgr Lefebvre, au lieu d'imposer sa grille de lecture, probablement il n'aurait pas fini comme il a fini, je veux dire quasiment rallié. Observe ce que tu as vu et ce que tu as reçu et ce que tu as entendu, et surtout fais pénitence. Et notre Seigneur dit, si tu ne veilles point, je viendrai te chercher comme un voleur. Nous avons toujours besoin de faire pénitence, mes bien chers frères, toujours et plus encore maintenant qu'autrefois. Si ce n'est pas pour nous, c'est pour la conversion des pécheurs, mais gare à celui qui dirait qu'il n'a pas besoin de pénitence pour soi-même. Je conclus l'importance du rosaire médité. Autant saint Thomas d'Aquin que Jésus disent qu'il faut méditer, pratiquement c'est cela que cela veut dire, méditer les mystères, vous les avez dans le rosaire. Pour demander, le prière du rosaire est très efficace, donc dites votre rosaire, faites dire votre rosaire, trouvez des gens pour dire au moins une dizaine de chapelets avec vous, et Dieu vous bénira, vous serez un vivant vivant et non pas un vivant mort. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il.